Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Bleu.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Alors aujourd'hui, belle journée aussi, mais c'est une journée musique. Alors
musique.
On commence avec quoi ?
Du jazz, un pianiste, un compositeur.
Waouh !
C'est d'origine suisse, Montréalais d'origine suisse, compositeur, pianiste de jazz.
D'accord.
Voilà, qui va nous parler un peu de son parcours artistique et de ses prochains spectacles qui vont arriver.
Mais c'est super. Alors, en deuxième partie, on va avoir Thomas Hellmann, qui est entre autres auteur-compositeur, parce qu'il est bien d'autres choses aussi, et qui a fait un tome 1 et un tome 2 des rêves américains. Et on va parler du tome 2 et de son spectacle qu'on va voir pour la première fois en web diffusion et qui est enregistré au Palais Montcalm à
au
Québec.
Au Palais Montcalm.
Oui. Oh oui.
Là, on va tout de suite en musique.
Alors, on écoute le jazzman.
Ouais, avec un de ses groupes, parce que lui, Félix, il dirige plusieurs groupes. Alors, il joue avec plusieurs groupes, disons.
D'accord.
Avec le groupe Supernova 4, on écoute maintenant la pièce Three Horn. C'était Supernova 4, Three Horn. Ça, c'est l'un des groupes, je dis bien l'un des groupes qui dans lequel Félix est toujours au piano, bien sûr, il ne joue pas avec un seul groupe. Cette frivolité musicale en tant que musicien, pianiste et compositeur, Félix Toussy, le pianiste-compositeur montréalais originaire de la Suisse, qui vit ici depuis des décennies, qui fait le tour du monde avec son piano, bien sûr, et ses artistes. Bonjour Félix Toussy.
Bonjour Félix.
Alors, ma collègue Arlette Farah va découvrir aussi ton univers musical et du piano surtout.
Je l'ai découvert, Félix. Ah, voilà. J'ai déjà écouté.
Bonjour Arlette.
J'ai regardé des vidéos. Je me suis fait un spectacle tout seul.
Merci de me couper là. Alors Félix, toi et le piano, d'où vient ce mariage?
Oui, oui, oui.
C'est une longue histoire d'amour.
mais moi, je suis tombé en amour avec le jazz avant de jouer du piano, parce que mon père avait une collection d'albums.
Oui.
De Duke Ellington, Lester Young, Bert Tatum, plein d'albums. Et moi, j'écoutais ça sur un vieux tourne-disque mon père était très fier d'avoir vu en personne Lionel Hampton et Louis Armstrong.
Oh, la chance!
Oui. Alors, ça m'a impressionné. Et il y avait des vieux, entre guillemets, qui avaient été probablement plus jeunes à l'époque que moi, je le suis maintenant.
Mais Félix, je sais que tu viens de la Suisse profonde. Comment ton père a vu voir Louis Armstrong en concert?
Oui, mais la Suisse profonde n'est pas inculte.
Dis donc. dit n'importe quoi. Tournées de partout.
Mais t'as raison, Fulgence. Et tu sais, vous le savez pas, mais Fulgence et moi, on le sait. Nous, quelquefois, on parle spécialement ensemble.
D'accord.
Un passé caché aussi. Mais parce que les Suisses romans appellent les Suisses alémaniques un peu. Ils les appellent la région, ma région est appelée par les Suisses romands la Suisse primitive.
D'accord,
oui.
je comprends mieux l'intervention.
Oui.
Alors, c'est ça. Mais le Glaris, de d'où je viens, le canton de Glaris, a toujours été un canton quand même assez progressiste, honnêtement. Même parmi les cantons de la Suisse, comme on appelle primitif,
oui.
Le canton de Glaris a toujours été un des réformateurs. Zwingli était actif à Glaris, c'était un des prêtres à Glaris. Et aussi Clarion, qui travaillait avec Erasmus de Rotterdam, venait même du village d'où j'ai grandi.
Wow.
À Morlis. C'est ça. Alors, il y a quand même toujours une ouverture, et le jazz a quand même une longue histoire dans le canton.
Wow, oui.
C'est ça. Et moi, j'ai vu jouer ces gens-là, et mes parents aimaient aller au concert de jazz, et à l'époque, les jeunes aller accompagner souvent les parents. Alors moi, j'ai vu du jazz être joué dans ma vallée très tôt dans ma vie.
Oh, le chanceux.
C'est sûr.
Ouais, non, c'est de là que venait ton amour. Donc, tu as découvert le jazz avant le piano. Voilà. Et le piano, c'est parti. Et comme
moi,
ça.
Moi, j'ai commencé à jouer du piano vers 9 ans.
Ça allait être ma question. À quel âge tu as commencé le piano? 9 ans, d'accord.
9 ans, ouais, c'est parti.
Et là, j'ai eu quelques années de cours classiques, quand même plusieurs années, mais au moment donné, mes parents ont dit on ne paye plus pour les cours parce que tu ne pratiques jamais. Mais entre-temps, j'avais commencé à jouer du blues et du jazz, et je faisais ça par moi-même. Alors, je suis autodidacte en blues et en jazz.
Oui.
Mais j'ai eu des cours classiques quand même.
Oui, oui, qui t'ont permis d'aller de l'avant de toutes les façons, parce que la plupart des musiciens aussi ont toujours eu des cours classiques. Et puis voilà. Alors là, maintenant, là, depuis que tu es à Montréal, moi, je vois que vraiment cette frivolité musicale, je dis frivolité parce que Félix se retrouve avec au moins 3 groupes ou bien 4, je ne sais pas combien là.
Ben, c'est du travail, c'est pas de la frivolité.
Je dis frivolité musicale.
Maintenant, on ne travaille pas, ou presque pas, mais quand on travaille, nous, on est quand même très chanceux, on peut être frivole même quand on travaille.
Oui. Alors, le spectacle avec Jazz Lab Orchestra, ça, bon, ça s'est passé le 5 mars. Et puis, le 27 mars, il y aura... Tu nous parles de ces spectacles qui vont arriver bientôt, là.
Le 27 mars, tu veux dire, avec le Jazz Lab?
Ça, oui, c'est oui, oui, avant de tomber avec le Supernova 4.
Oui.
Qu'on vient d'écouter.
Jazz Lab Orchestra, j'ai l'honneur de faire partie de ça. Ça, c'est un projet du contrebassiste Alain Bédard, qui est aussi à la tête du label de la maison de disques qui s'appelle Effendi.
Oui.
Et le projet avant celui-là qu'on va présenter, j'ai eu l'honneur de composer un répertoire au complet. Mais cette fois-ci, le 27 mars, on va proposer un nouveau projet qui est dédié complètement aux compositions de Alain Bédard.
Oui.
De lui-même, et c'est la première fois, je pense, le 8e album du Jazz Lab Orchestra qui existe depuis plus de 20 ans, je pense. Mm. Non, depuis plus de 15 ans, maintenant même 16, bientôt 17 ans. Alors, le 27 mars, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Jazz en Rafale.
Jazz en Rafale.
Si vous allez, tout le monde peut trouver ça sur Internet.
Sur le web, parce que ça va être du live streaming.
Oui, ben, évidemment, oui. Oui. Là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose encore chez nous. Là, dans le rouge, on ne peut pas encore
accueillir
de public. Alors, ça va être en streaming sur le point de vente.
Oui.
Mais ça vaut vraiment la peine. Et avant ça, il y a d'autres concerts. D'ailleurs, il y a une série de 9 concerts. Il y en a plusieurs qui ont déjà eu lieu.
Oui.
Comme le samedi passé, c'était Yves Léveillé. Très bientôt, ça va être Jacques-Coubert Séguin. Il y a aussi François Bourassa solo.
Oui.
Et le 27, c'est le Jazz Lab.
Voilà. Ouais,
le 27
mars. Jazz Lab Orchestra. Ouais.
Un orchestre de 8 musiciens.
Oh, oui, ah, oui, c'est large quand même, c'est gros comme groupe.
Bon,
hein.
Profitez pour en écouter un autre morceau.
Oui, on va écouter un autre morceau cette fois-ci avec les Malcommodes, avec la présence d'une des chanteuses que tu accompagnais aussi, qui vient se joindre aux Malcommodes, Sonia Johnson.
Oui.
Voilà,
oui,
on écoute ça. Oui.
Sur la terre, valeureux et sans frontières. joyeux.
C'était Félix et les Malcommodes avec la voix de Sonia Johnson. Voilà.
Ouais, là, il s'agissait d'un pot pourri un peu là, de plusieurs. Il y a au moins trois morceaux différents là, dans cet extrait qui était comme un extrait. C'était comme un trailer. Comme
ah, bien.
Un medley. Quelque chose comme
un medley,
ça.
Oui.
Oh, oui, oui.
C'est pour annoncer l'album, mais c'est bien. Ça donne plusieurs facettes de ce qu'on fait.
De ce que vous faites. Alors, on revient sur les prochains spectacles. Là. Tu nous as parlé de Jazz Lab Orchestra. Là, tu vas nous parler de Supernova.
Oui, mais Supernova 4.
4, ça, pardon.
Vraiment... Oui,
je veux pas vous rebaptiser, là.
Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que dans l'histoire récente, je veux dire les derniers 1000 ans,
oui.
Les êtres humains ont vu à œil nu 3 supernovas qui ont été documentées historiquement. Une par Copernicus, par exemple.
Oui.
Et nous, on est la 4e.
OK. C'est de là que vient le nom, quoi.
Oui, mais on est aussi 4 musiciens, alors ça va dans les deux sens.
Dans les deux sens. Alors, dans le cadre du Festival Jazz en Rafale, aussi le 24 avril, il y a quelque chose ensuite. Bah, vas-y, tu nous parles un peu de ça. Tu es en train de peaufiner ça ou bien c'est déjà clair?
Ben là, on va... Parce que une journée avant le confinement,
oui.
Au mois de mars passé, on a lancé un album qui s'appelle Supernova 4.
Oui.
Et alors, on n'a pas eu la chance de le... présenté, on l'a juste lancé, on l'a joué une fois au 10-11, mais
d'accord.
Là, il est vraiment temps qu'on puisse représenter cet album.
Oui.
Alors, on va jouer le 24 avril dans le cadre de Jazz en Rafale, et il y a aussi une représentation le 7 mai à la Chapelle historique du Bon Pasteur. Évidemment, on ne sait pas si on va pouvoir avoir du public, on l'espère.
On l'espère, oui.
Tout ce que je dis maintenant... va être aussi diffusé en ligne. Alors, on a appris ça. Alors, c'est notre nouveau savoir-faire, c'est faire les deux.
Oui,
alors,
ouais, ça va être des soirées, des spectacles hybrides.
Hybrides, oui. Le 14 et 15 mai, on va jouer au 10-11.
Ah, c'est
et
bien.
Le quelque part au mois de juin, ça c'est pas encore déterminé, on va jouer à Québec dans le cadre du festival Québec Jazz en juin.
Oui.
Alors c'est ça, et juste pour dire brièvement c'est quoi Supernova 4. Supernova 4 c'est un quatuor avec Jean de Rome qui joue du saxophone et flûte.
Oui.
Saxophone alto, saxophone baryton.
Mm-hmm.
Normand Guilbeault à la contrebasse.
Oui.
Et Pierre Tanguay à la batterie,
moi-même
au piano.
Ouais, j'ai eu la chance, oui, de vous voir au Jazz 11, là.
Oui.
Avant,
oui,
la,
oui,
pandémie, attention, faut vous préciser. Juste avant la pandémie. Oui.
À une époque déjà lointaine.
Ah, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est comme un autre monde.
Oui.
Félix.
Oui.
Je sais que dans une autre vie, tu étais journaliste. Quand est-ce que tu as pris la décision de laisser tomber le journalisme et te consacrer uniquement au piano et au jazz?
Oh, ben, c'est bien mieux.
Honnêtement, j'ai pas laissé tomber le journalisme complètement.
Oui.
J'écris encore. Oui. Là, je suis rendu columniste.
Ah,
alors,
okay.
Je suis comme, je pense au Québec, on dirait chroniqueur.
Oui.
Depuis 13 ans, je suis columniste, chroniqueur pour un journal, pour le journal que je travaillais pour à l'époque.
Oui.
Mais qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée? Oui, je dois dire que le journalisme de la presse écrite dans un quotidien est très, très stressant. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression. Et j'ai subi les conséquences de ça, disons. Tu sais, je tombais dans un trou. Parce que je travaillais trop et j'avais trop de pression.
Oui.
Et à l'époque, j'ai laissé le journalisme de côté et j'ai décidé de terminer mes études avant d'émigrer avec ma femme, parce que ma femme québécoise habitait déjà avec moi en Suisse.
Oui.
Et j'ai terminé mes études en histoire, ethnomusicologie et littérature anglaise. Et après, on a émigré ici. Et là, ça va faire 23 ans, ou ça fait déjà 23 ans que je suis ici au Québec.
Oui, tu es arrivé avant moi. Ouais, je sais.
Et avant moi aussi.
Ouais. Et parle-nous un peu rapidement, rapidement un mot sur Auguste Quartet là.
L'Auguste Quartet.
Oui, l'Auguste Quartet. Oui, rapidement, on a juste une minute là. Oui,
pour qu'on... Mm-hmm. C'est un autre projet d'Alain Bédard en quatuor avec Mario Allard au saxophone, Alain Bédard à la contrebasse et Michel Lambert à la batterie.
Oui.
Et avec ce quatuor-là, qui vient de lancer un album aussi, on a déjà joué en jazz rapal et on a déjà joué en Asie, on a souvent joué en Europe, on a joué au Canada, partout.
Mm-hmm.
Alors, c'est aussi un projet qui voyage beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était une belle
découverte.
Voilà. On sera là en ligne avec vous pour les différentes dates que tu nous as mentionnées.
Oui.
Bon piano, bon jazz et puis au plaisir de te réentendre.
À bientôt.
Pour un prochain album.
Oui, à bientôt et merci de l'invitation.
Avec plaisir.
Bye bye.
Au revoir.
Bye bye, Félix.
Au revoir.
Ouais.
Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des bidoux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit? Sans cesse, bonheur fané, cheveux noirs, baisers pâlés, rêves émouvantes. Que reste-t-il de tout cela dit à moi? Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché dans un nuage. Cher visage de mon passé. Les mots tendres comme les murs, les caresses les plus pures, les serments au fond. Un livre de parfums enivrants. Que reste-t-il de nos amours, de ces beaux jours?
C'était Patrick Watson. Que reste-t-il de nos amours?
Et Maurice, qui connaît tout dans la musique, nous fait savoir que c'était la première chanson qu'il chantait en français. Première fois qu'il chantait en français. Parce que d'habitude, Patrick Watson, c'est toujours en anglais. Donc, c'est bien d'entendre une belle chanson qui date, qui est restée dans les annales des chansons françaises et qui est chantée avec ce léger accent anglais qui est absolument délicieux quand on entend chanter comme ça.
Je ne connais pas une autre pièce de lui en français, moi non plus. Je connais des pièces de lui, mais pas en français.
Oui.
C'est en anglais presque. Alors là,
Eh bien, écoute, merci, merci de m'avoir présenté Félix. Comment on prononce son nom? Parce que j'ai vu qu'il y avait un tréma sur le U.
Stussy.
Stussy, mais on dit quand même U, Stussy.
Stussy.
D'accord.
Oh ouais, Stussy. S'il n'y avait pas de tréma, on aurait dit Stussy.
D'accord.
En allemand, le U, c'est U.
D'accord.
Voilà, avec le tréma, ça devient... Si tu ne mets pas le tréma, tu mets UE.
Ok.
Et
alors,
tu le prononces pareil,
Félix Stussy. En tout cas, ravi d'avoir fait la connaissance d'un musicien qui arrive à vivre de sa musique. Bravo, parce que c'est aussi une performance.
Oui, oui, non, c'est quelque chose. Oh, ouais, c'est vraiment, il vit de ça. Il est c'est un musicien professionnel, parcourt le monde entier avec ses amis dans les différents groupes. Là, et,
oui.
Bon, la pandémie a tout bloqué.
Hein. Ben, tout bloqué pour tout le monde. Donc, on n'en parle pas. Ça, tous les artistes sont sur le même pied d'égalité, malheureusement, ou d'inégalité, on va dire.
C'est comme ça.
Dans la prochaine demi-heure, on va continuer avec de la musique, mais la musique différente. Alors, c'est Thomas Hellman. Peut-être certains connaissent parce qu'il a fait beaucoup de choses et puis d'autres connaissent moins. Il a beaucoup écrit sur les rêves américains, sur les chercheurs d'or dans son premier tome. Et dans le deuxième, c'est la grande crise qu'il y a eu en 1930. Oui, c'est ça. Et donc là, il est... Ces chansons sont des histoires, c'est des petites histoires. Il raconte les histoires, il a retrouvé des musiques. Enfin, il va nous parler de tout ça parce que c'est super intéressant.
Intercalé de musique à l'intérieur de ces histoires.
Il a des chansons.
Dis-moi simplement.
Des chansons entières et il raconte.
Oui.
Et puis tu vas voir parce que c'est tout un spectacle qu'il fait au Palais Montcalm à Québec. Et je crois, je ne suis pas sûre, d'ailleurs il va falloir que je lui demande parce que je sais que c'est en web diffusion, mais il me semble qu'il y a une partie où le Palais Montcalm a rouvert ses portes et qu'ils reçoivent de nouveau avec la distanciation normale.
Un petit groupe.
Est-ce que c'est un bruit de couloir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien.
Ils sont en zone orange là-bas actuellement à Québec?
Oui.
Ok. Les chanceux.
Donc, si c'est devenu en zone orange, il paraîtrait qu'on a le droit.
La moitié de la salle.
Oui, c'est déjà mieux que
c'est
rien
déjà
de
mieux
se
que
retrouver.
Rien du tout. Il peut toujours faire web diffusion et moitié de la salle. Ça...
Les fesses dans un fauteuil de salle, ça peut être super bien.
C'est
déjà, rien que le fait de franchir la porte, moi, déjà, ça m'apporterait du bonheur.
Voilà.
Quand est-ce qu'on
nous.
Vient en zone orange à Montréal?
Ne pose pas la question. Restez avec nous.
À tout de suite. On se retrouve tout de suite après ça.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Les armes, j'étais toujours aux premières lignes. Ils disaient on construit un rêve, et j'étais toujours partant pour travailler sur les chemins de fer et les gratte-ciel faits d'espoir et de ciment. Ils disaient on construit un rêve, alors j'ai suivi le troupeau, j'ai fait rouler les trains. Alors pourquoi aujourd'hui dois-je attendre en ligne pour du pain? Ils disaient on construit un rêve et j'étais toujours partant. J'ai construit les gratte-ciel mais c'est fini maintenant. Ami, aurais-tu une petite pièce? Once I built a railroad, made it run, made a race against time. Once I built a railroad, now I'm done. Brother, can you spare me time? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and line. Once I built a tower, now it's done. Brother, me sperry time. Once in khaki suits, gee, we looked swell. Full of high Yankee doodle-dum. Half a million boots went slogging through hell. Now I was a kid with a drum. Say, don't you remember? You called me out. It was Al all the time. Say, don't you remember? I'm your pal. Brother, can you spare a dime? Say, don't you remember? I'm your pal. Brother, can you spare a dime? Brother, can you spare a dime? Brother, can you spare a dime?
Et voilà, alors on vient d'entendre une des chansons qui était dans, qui va être dans le spectacle de Thomas Hellman, que pour l'instant on a quelques difficultés à joindre parce que sans doute au Palais Montcalm il y a beaucoup de répétitions et beaucoup de travail à faire. Donc pour parler un petit peu de lui, pour ceux qui le connaissent, donc c'est un auteur-compositeur, il est chanteur, il est chroniqueur de radio. Il est écrivain québécois, il est né d'une mère française, de niçoise, et d'un père texan. Et il faut le dire, il chante aussi bien en anglais qu'en français. Donc quand il raconte ses histoires sur le spectacle, il y a des chansons qui sont toutes en français, puis il y a des chansons qui sont racontées en français et chantées en anglais. Ah oui, Fulgence, okay. C'est tout un spectacle parce qu'on passe à travers... le rêve américain. Le rêve américain à l'époque des chercheurs d'or, à l'époque de. À une époque qui a fait briller les yeux quand on croyait encore que l'Amérique allait être un Eldorado.
L'époque du Far West.
Ben, ça rappelle beaucoup. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avoue que sur certaines de ces musiques, j'ai pensé à un western qui a fait ma passion lorsque j'étais jeune.
Et
c'était Il était une fois dans l'Ouest.
Oh.
tu y pensais, tu l'aurais deviné.
Oh. Et, qui n'a pas vu ça?
Ah, écoute, c'était extraordinaire. Moi, rien que l'harmonica, évidemment. Hein, c'est peut-être de là qu'est née ma passion pour l'harmonica.
Oui. J'ai un ami d'enfance qui connaissait tous les petits mouvements. Tous les petits gestes, la rapidité avec... on sort les revolvers et puis...
Et alors ?
Ouais.
Oui, et puis qui jouait, enfin...
Il jouait au western, quoi. Il jouait au héros avec les mouvements, des gestes très bien calculés, quoi. Je dis, waouh, moi, je ne suis pas capable de le faire.
Et moi, je les aimais, mais déjà, à cette époque-là, j'étais plutôt pour... les Indiens. Alors, je pensais quand même que,
oui.
Tu vois, même petite, je me disais, voilà, que les méchants n'étaient pas toujours là où on les plaçait.
Oui, pourtant, oui, de toutes les façons.
Pourtant,
ouais.
j'étais pas jeune à ce moment-là.
C'est pas eux qui ont écrit l'histoire, hein, donc voilà.
Non. Alors, il raconte un petit peu dans une autre entrevue que c'est sa grand-mère a même rencontré, parce qu'il parle de Ford, comment ça s'est passé. Il a une chanson sur Ford. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'il serait possible qu'on la passe aussi, cette chanson sur Ford, sur l'histoire de Ford,
la famille Ford.
Oui. Comment il l'a fait, parce qu'en fait, Ford, il a eu un cadeau de son père, une montre.
Oui.
Qu'il aurait démonté sans arrêt parce qu'il s'intéressait au mouvement-là.
C'est de là qu'est partie son ingéniosité pour arriver plus tard à cette histoire de voiture-là.
Voilà,
oh.
C'est ça. Et là, Thomas Hellman en parle justement et il a fait une chanson dessus qu'on écoutera tout à l'heure.
Bricolant la montre qu'il avait reçue en cadeau.
C'est comme quoi il y a des choses, quand on est enfant, ça peut le faire que... C'est voilà, c'est Tu sais, ça peut le faire que des fois, ben, voilà, c'est cette passion-là qui fait
oui,
que...
Oui, sans toutefois penser ce que ça peut, où ça peut nous apporter, où ça peut nous envoyer dans le futur.
Voilà,
plus
où
tard.
Ça peut nous envoyer. Et puis, c'est ça, c'est une passion. Et après cette passion-là, eh ben regarde ce que ça a été. Ouais, puis tout le monde voulait travailler chez Ford à une certaine époque, évidemment. Hein, aujourd'hui, on n'est plus. On peut l'écouter, on va l'écouter.
En 1875, pour son deuxième anniversaire, le jeune Henry Ford reçoit en cadeau de son père une montre. Henry la démonte, la remonte, la démonte et la remonte encore. Ce sera la naissance d'une passion pour la mécanique qui le conduira à construire son premier moteur à vapeur à l'âge de 15 ans et éventuellement la voiture qui le rendra riche et célèbre, la Ford T. En 1917, Ford Industries commence la construction du complexe de Rivière Rouge à Dearborn, Michigan. Le plus important complexe industriel au monde, 2,4 km de long par 1,6 km de large, sa propre centrale électrique, son propre port sur la Rivière Rouge, 160 km de rails. Le complexe emploie plus de 100 000 hommes. Le travail est organisé de façon minutieuse. Chaque geste est réglé au quart de tour comme la mécanique des montres. Les employés sont bien payés, logés dans des maisons de banlieue alignées avec tous les conforts modernes. Chaque minute, 240 voitures de l'heure, 6000 Ford par jour. Le cœur de l'industrie américaine, c'est Détroit. Et le cœur de Détroit, c'est Ford. Le président Hoover vient à Dearborn, Michigan, pour l'inauguration du musée de la vie américaine que Ford a fait construire. Le musée préserve les paysages d'une Amérique rurale que son industrie a largement contribué à faire disparaître. Pendant que le président est chez Ford, la bourse à Wall Street commence à chuter de façon vertigineuse.
Bonjour Thomas Hellman.
Bonjour.
Bonjour Thomas Hellman.
Alors, j'ai commencé à raconter des histoires moi aussi, grâce à tout ce que j'avais lu sur vous.
Et c'est
puis,
vrai.
Oui, puis d'en parler. Puis alors, j'avais commencé parce que, alors, faut vous dire que préparer une entrevue avec Thomas Hellman qui fait tellement de choses, c'est pas une sinécure. Et choisir au milieu de toutes ces très belles chansons, ça a été aussi une grosse difficulté.
Donc, je vous remercie quand même parce que vous me faites plaisir.
J'avais passé Brother Can You Spare a Dime, c'est ça? Là,
oui,
j'avais
Brother
beaucoup...
Can You Spare a Dime.
Dime, voilà. Donc, je demandais à mon collègue qui parle bien anglais, il m'a dit que c'était Dime. Donc, déjà, c'est sa faute. Alors, il voulait que je me ridiculise, je pense que c'est pour ça. Et donc, je racontais l'histoire des chansons et l'histoire. Que je vous ai entendu raconter sur Ford et sur la manière dont tout ça avait été créé, comment un enfant qui reçoit un cadeau décide de voir son avenir se découvrir, en tout cas comme ça.
Mm-hmm.
Et là-dedans, c'est toute une histoire, oui.
C'est toute une histoire. En fait, vous savez, j'ai construit tout le projet en fait autour de deux univers. Hein. C'est toute la première partie du projet, du spectacle, est consacré à la ruée vers l'or, donc la construction du mythe américain. Et la deuxième partie, c'est la grande crise. C'est tout ce qui sous-entend ce mythe, la souffrance des laissés pour compte, la lutte des classes, etc. Et Ford, c'est un personnage fascinant parce qu'il avait cette idée qu'on pouvait corriger l'imperfection humaine grâce à la perfection des machines. Et en fait, il a mené au Fordisme, à l'organisation du travail à la chaîne, donc essayer d'organiser la société humaine comme on organise un peu les machines. Et puis ça a mené au fascisme, parce que Ford, une des personnes qui l'a beaucoup inspiré, bien évidemment, c'est Adolf Hitler.
Évidemment, oui. Ça fait partie de l'histoire. Mmh. Mais en même temps, toutes ces chansons, alors je savais pas lequel choisir, puis je me suis laissé aller, j'ai dit après tout, ton choix, parce que pour moi, toutes ces musiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, me rappelaient bien évidemment des très beaux westerns, dont un qui a fait battre mon cœur quand j'étais petite, c'est Il était une fois dans l'Ouest.
Oui, je connais très très bien. Mais vous savez, Ennio Morricone m'a beaucoup inspiré dans le projet, surtout pour l'album.
D'accord.
Alors, dans le spectacle, on sent un petit peu moins l'influence parce qu'on est juste trois musiciens sur scène, donc trois multi-instrumentistes, on s'échange les instruments, mais quand même, c'est un peu les instruments qu'on retrouve dans Ennio Morricone avec la guitare, le banjo, les percussions, le piano, la contrebasse. Mais dans l'album, vous entendez vraiment l'influence parce que là, on a pu un peu se déployer un peu plus nos efforts. On a intégré un orchestre, donc une section de cordes et tout ça. Donc le son de Ennio Morricone m'a beaucoup influencé. Et c'est aussi sa façon de réinterpréter le western, de lui donner une dimension mythologique. Et c'est ce que je voulais faire avec ce projet. Moi, je partais de l'histoire, donc la grande histoire que m'a raconté ma grand-mère américaine qui a vécu la crise, qui vivait à Milwaukee à cette époque-là et qui m'a chanté les chansons de cette époque, les histoires de cette époque. Et ce que je voulais, c'est prendre toutes ces petites histoires et montrer comment les petites histoires font la grande et faire ressortir aussi sa dimension mythologique. C'est pas l'histoire des États-Unis qui m'intéresse, mais c'est comment cette histoire en particulier en fait devient l'histoire de tout le monde. C'est notre histoire aussi au Québec, c'est l'histoire de tout le monde parce que c'est l'histoire d'une traversée de la noirceur en quelque sorte. On plonge dans la noirceur pour émerger dans la lumière et ça, on en a besoin par les temps qui courent. On a besoin d'espoir.
Mais c'est tellement... Ça s'applique... Quand j'écoutais les chansons, là, je trouvais que ça s'appliquait tellement à ce qu'on vit. Puis en même temps, quand vous parlez de votre grand-mère, et puis il y a la merveilleuse chanson, là, les boîtes de cornflakes, qui me donnait envie de sourire, mais en même temps, c'est vrai. Et ça m'a fait penser à ce qui s'est passé, ne serait-ce que l'année dernière, quand il y a eu pénurie de papier toilette parce que les gens achetaient... en pensant qu'ils allaient être obligés d'être enfermés pendant je ne sais combien de temps. Donc, ça peut revenir très, très vite, ce genre de choses. Mais il y a quand même une chanson qu'on écoutera à la fin de notre entrevue, parce que moi, je l'ai beaucoup aimée. J'ai eu un coup de cœur encore plus dessus, sur le texte, même si j'ai tout aimé, c'était difficile de choisir. C'est « On ne revient jamais sur ses pas ».
Oui. Alors, vous allez aimer, ça, c'est un beau moment dans le spectacle, quand je... quand je chante cette chanson-là avec la, qui est suivie de 500 Miles, qui est en fait, c'est l'histoire des hobos. Hein. Les
oui,
hobos, c'est des personnages qui reviennent souvent dans le spectacle et dans les albums. Donc, c'est ces personnages errants qui étaient un peu comme des nomades célestes qui erraient à travers l'Amérique à dos de train.
Oui,
et
voilà.
Vous savez, il y a des choses qu'on sait peu sur les hobos, mais le plus célèbre, celui dont je parle dans mon projet, c'est A Number One, Leon Ray Livingston, qui était un peu le roi des hobos, parce qu'il a écrit des livres. Il écrivait des livres dans lesquels il racontait ses aventures, et il est devenu célèbre en vendant ses livres. Et même en devenant riche et célèbre, il n'a jamais quitté sa vie de nomade, d'errant. Et un des endroits où il aimait particulièrement aller, vous savez, c'est Montréal. Il aimait beaucoup le Québec, et en particulier Montréal. Okay. Et Montréal, c'était la Mecque des hobos parce qu'il y avait des bonnes sœurs, tout simplement, qui s'occupaient d'eux, qui leur donnaient à manger, qui les prenaient en charge, alors qu'ils étaient plutôt rejetés ailleurs. Alors, mais à Montréal, ils étaient bien traités. Donc, les hobos venaient souvent par Montréal. C'était une plaque tournante. Et il y a une histoire de A Number One qui rencontre Jack London à Montréal et puis ils prennent le train ensemble, ça s'appelle Coast to Coast with Jack London. Il traverse le Canada à dos de train. Jack London est A Number One.
Ah ouais, mais c'est tellement, ça m'a fait rêver. Je l'ai écouté plusieurs fois et chaque fois ça me faisait rêver parce que ça donne vraiment des images. Donc hâte à ce spectacle qui va arriver d'ailleurs.
Oui. Mais moi aussi on a hâte.
Mais ma question est avant qu'on en parle un petit peu plus avant, c'est j'ai lu, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est ce que je disais tout à l'heure avant que vous arriviez. Est-ce qu'il va y avoir quand même, est-ce que le Palais Montcalm va ouvrir ses portes quand même?
Oui, c'est ouvert au public.
D'accord. Ah ben c'est ça, formidable.
Ça nous a surpris aussi. Finalement, avec les nouvelles règles, on a le droit. Donc ça va être diffusé sur Internet, donc ça va être filmé pour les gens partout autour du monde, et puis c'est ouvert au public. Donc,
mais Thomas, mais pas pour qu'il y ait toute la quantité de la salle, la moitié de la salle ou bien toute la quantité de la salle?
Non, pas toute la quantité de la salle.
Non,
les règles, il y a des règles très précises.
Une place assise, une place vide, ça doit être un peu dans ce...
Je pense que c'est même moins que ça. Une place assise, quatre places vides, une place assise. Donc c'est vraiment, ce sera certainement pas à pleine capacité. Et ça, c'est sûr.
Oui.
Mais il faut très attention. Même nous, quand on monte sur scène, il faut qu'on porte des masques avant de monter sur scène.
Oui.
L'espace entre les musiciens est très calculé. Enfin, tout ça est très sécuritaire. Hein. Il n'y a vraiment aucun...
Ah oui, non, mais
je vais être plus en sécurité sur scène là-bas
que dans les rues.
Ou au supermarché.
Que dans le métro.
Il était temps qu'ils ouvrent les théâtres.
Ah oui.
Ça va faire du
bien. Ah oui, mais nous, on est encore privés là, à Montréal. Alors arrêtez de nous faire envie. On est encore privé. Donc, ça se passe quand, comment? Allez-y.
Alors, c'est vendredi qui vient, maintenant, vendredi le 12, au Palais Montcalm. Et c'est plus tôt, parce que là, pour que le public puisse voir le spectacle, c'est à 19h. Et donc, en diffusion aussi, donc en diffusion sur le web à 19h en même temps. Et puis, les gens pourront aussi revenir. Il va être disponible sur Internet pendant quelques semaines, je pense. Les gens pourront venir.
Ah, chic.
Le consulter, ceux qui n'auront pas l'occasion de le voir en personne. Pour nous, c'est exceptionnel parce que ça fait un an que je ne suis pas monté sur scène, imaginez.
Ben oui, je sais. Tous les artistes en sont là, malheureusement. Quelle horreur.
Oui, bien sûr.
C'est déprimant d'entendre un artiste dire « ça fait un an que je ne suis pas monté sur scène ».
Ben oui. Mais là, ça va être...
C'est très déprimant, mais bon. On retrouve l'espoir. Là.
Oui,
quand
oui.
même, vous allez être à la différence d'autres qui sont tenus de rester en web diffusion. Vous allez pouvoir avoir au moins quelques personnes dans la salle qui vont vous applaudir en direct. Et c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas enlever. C'est l'ambiance, l'amour qu'envoie le public. C'est quand même important, quoi. Même s'il n'y en a qu'une petite partie, ça va être bon.
Bah oui, on le sent cette année. On a tous été un peu devant nos ordinateurs virtuels, les écrans et tout ça. Je pense que le public en a marre. On a hâte de retrouver... Les artistes ont hâte de retrouver le public a hâte de retrouver les artistes. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans une salle. Hein. Il y a quelque chose qui se passe dans la présence qui ne passera jamais par l'écran. C'est quelque chose de l'ordre de l'indicible, mais il y a un échange qui se fait quand même. Et là on va pouvoir le faire.
Alors,
et comme vous avez dit, c'est encore plus riche avec ce spectacle, parce que c'est un spectacle qui parle d'espoir, qui parle de gens qui trouvent l'espoir dans des temps difficiles. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
C'est vrai. Alors, on peut vous comparer avec enfin, il nous reste pas beaucoup de temps, mais on peut comparer avec la crise des migrants. Enfin, il y a plein de choses à voir dans ce spectacle et que j'ai hâte qu'il soit sur... enfin, qu'il y ait une tournée, qu'il y ait une tournée en Europe aussi.
Ah ben là, en fait, vous savez, ça fait déjà 200 spectacles que je présente.
Oui,
Rêve américain
sais, oui.
a été présenté à peu près 100 fois au Canada. Donc, on a fait le Québec, l'Ontario, les provinces maritimes. Mais en fait, surtout en Europe, ces dernières années, ça a décollé en Europe, surtout en France, mais on est allé aussi en Suisse, en Belgique, même dans le nord de l'Italie. Et on était en tournée en France quand la pandémie a frappé. Donc en fait, la tournée a été coupée court et on a dû revenir à Montréal en catastrophe. Normalement, en juillet, on retournait faire le grand festival de théâtre, le festival d'Avignon. Donc tout ça a été annulé, toutes les tournées ont été annulées.
Ça va revenir.
On espère que ça va revenir.
On le souhaite à
Alors,
tous les artistes.
Avant de nous quitter, donc, on regarde sur le site du Palais Montcalm pour acheter les billets.
Oui, sur le site du Palais Montcalm, c'est les gens qui veulent le voir en direct, c'est ce vendredi 12 à 19h. Et sinon, ils pourront toujours le voir en différé parce que ça va être enregistré. Mais bon, il y a quand même quelque chose de le voir en direct. Hein. Moi, je trouve que c'est plus...
plus
il y a l'excitation quand même, la fébrilité. Et puis ceux qui par hasard, auront la chance de se retrouver à Québec, eh ben, venez nous voir. C'est une belle salle, hein, le Palais Montcalm.
Oui, je sais. Eh ben, merci Thomas, en tout cas.
Merci beaucoup
de nous avoir accordé un peu de temps. Et puis le mot de Cambronne pour vendredi. Et puis moi, je serai derrière mon écran.
Allez,
à bientôt.
Bon spectacle.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne fin d'émission.
On part avec On ne revient jamais sur ses pas.
Au revoir.
Au revoir.
Imaginez-vous dans une petite ville, perdue quelque part au cœur de l'Amérique. Toujours le même horizon, toujours la même promesse d'un avenir tracé d'avance. Et quelques fois par semaine passe le train. Et à l'arrière du train, vous voyez toute une population de hobos qui sillonnent le pays. Et un jour, arrive un train qui roule plus lentement que les autres. Une ouverture apparaît dans le cœur d'un wagon. Alors vous grimpez. Et en quelques instants, vous avez dépassé la ligne d'horizon au-delà de laquelle vous n'aviez jamais osé vous aventurer. Puis vient la nuit et le jour. Une autre nuit, un autre jour, le temps passe. Et un jour, l'envie vous prend de contempler le chemin parcouru et de retourner en arrière. Mais vous vous rendez compte que c'est impossible. Pendant que vous fuyez votre passé, lui, s'éloigne de vous. On ne revient jamais sur ses pas, jamais. Personne.
Voilà, c'était une chanson qui est venue me chercher, que j'ai trouvée très intense au milieu de tout l'album, qui est absolument magnifique. Et puis, j'ai hâte de voir le spectacle. Bon, je ne le verrai pas au Palais Montcalm, parce que je n'irai pas à Québec, mais
sur le web, ça sera déjà ça.
Ouais.
Très beau projet.
Oui, c'est un très, très beau projet.
Si on avait encore du temps, j'allais lui demander combien de temps il a mis pour monter un tel projet comme ça.
Ça, je le sais. Il a écrit, quand il a écrit le premier tome, il écrivait déjà le deuxième. Il avait déjà l'intention de faire le deuxième en parallèle.
D'accord. Très beau projet.
Comme des petites histoires, comme la chanson dont il parle avec sa grand-mère, là, les boîtes de cornflakes, ça explique. Elle gardait pour entreposer, pour pas se trouver sans nourriture, quoi.
Vous voulez pas être en pénurie?
pour pas être en pénurie. Il dit, mais t'as pas connu la guerre, t'as pas connu ça. C'est vrai que c'est difficile à imaginer. Mais en tout cas, il fait un très beau spectacle. Les musiques, alors on n'a pas eu le temps de le dire, mais c'est des musiques qui... Il a pris certaines des musiques qui existaient déjà, puis il a mis des paroles dessus.
Non, mais c'est beau ce qu'il fait. Non, sincèrement.
Il reviendra nous en parler une prochaine fois.
Je vais voir ma disponibilité pour ça à 19h en plus. Oui. Nous, on finit à 18h, donc on verra bien ce que ça va donner. Quoi.
Merci Thomas Hellman.
Merci à Félix Tussi.
Mais oui, merci Maurice Bolduc pour les musiques.
Ouais, merci à nos auditeurs.
Et à nos auditrices.
Oui, merci.
Et puis.
On se retrouve demain.
On se retrouve demain, Fulgence. D'accord.
Ciao, bonne soirée.
Bonne soirée à tous. Et à demain, même heure, même endroit. Oui. Au revoir.